Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Et la plume. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue et merci, comme tous les ans, au public très nombreux rassemblés ici sur le site Louis Pasteur de l'Université d'Avignon pour un masque et la plume consacré à la 73e édition du Festival d'Avignon avec ses critiques Fabienne Pascaud, la femme au bracelet d'or de Télérama, avec Armel Héliot du quotidien du médecin, Jacques Nerson de l'Obs, Gilles Costaz de Politis et Vincent Josse de France Inter. Il sera question ce soir du spectacle de Pascal Rambert, présenté dans la cour d'honneur, mais aussi de Péléas et Mélisande, de Homer, de l'Europe, vu par Laurent Godet, et même un peu par François Hollande, de l'amitié entre Eduardo de Filippo et Pasolini, et de l'amour vainqueur d'Olivier Py, le patron de ce festival, dont le slogan est « Désarmer les solitudes ». Dans son édito, Olivier Py écrit en effet « Notre impatience d'une société plus juste, d'un rapport au monde plus sain, d'une parole mieux partagée et le plus haut désir politique. Et pour cela, il faut désarmer les solitudes. Je me demande, cela dit, pourquoi la solitude est à ce point armée. Mais c'est un autre débat. Votre sentiment aux uns et aux autres sur cette 73e édition, Fabienne ?
Pour l'instant, elle part un peu dans tous les sens. On a vu des tas de spectacles qui n'étaient pas franchement du théâtre, un spectacle sur le monde financier, une leçon.
On va parler de tout ça.
Mais en même temps, ça montre la vitalité du théâtre. Mais le théâtre pur et dur en a pris quand même un petit coup, là, je trouve, cette année.
Jacques ?
Je suis un peu d'accord avec Fabienne sur le petit coup et même, à mon avis, un gros coup. Il y a une sorte de défaite pour moi du théâtre, notamment par le fait que la politique politicienne s'invite sur la scène.
Mais c'est toujours invité.
En même temps, c'est une ouverture.
Je pense que c'est plutôt une abdication du théâtre. Mais enfin bon.
Je peux faire quand même l'émission jusqu'au bout
Oui. Je vous y autorise.
Oui. Armel.
Oui, je pense que mes camarades ont raison. Mais vous savez ce qu'est un festival? Il suffit d'un spectacle, aussi modeste soit-il, et tout d'un coup vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez le sens de votre métier, de votre vie. Et j'ai eu cette chance hier, mes camarades n'ont pas eu le temps d'y aller, j'ai vu un spectacle qui s'appelle Phèdre avec un point d'exclamation. Ça se donne à la collection Lambert, c'est un spectacle de la série de la Suisse, un texte de François Gremaud qui est un génie de la langue et de l'intelligence, et un acteur que j'avais jamais vu de ma vie qui est exceptionnel, qui s'appelle Romain Darol. Voilà, et ça tout d'un coup, eh ben tout change.
Vincent,
tu as raison, on aimerait dire ça à chaque sortie de spectacle, parce que qu'on soit critique ou festivalier, on attend ces moments où on sort en sautillant de joie, quand le théâtre nous rend plus fort, meilleur et plus heureux. Ces moments-là, on les attend beaucoup depuis le début. Les grandes odyssées, les grandes formes ne sont pas à la hauteur. Alors certes, on a du théâtre contemporain qui s'invite dans le festival cette année. En soi, c'est intéressant, mais le rapport mise en scène et texte contemporain n'est pas là. Il n'y a pas de fusion qui se fait. On est beaucoup dans le constat, nous, spectateurs, et on attend ce qui ne vient pas, à part peut-être les petites formes. Pour l'instant, les formes d'1h, 1h10 tiennent la route. Elles sont même mieux que ça. On aura l'occasion d'en parler,
le
notamment de l'amour vainqueur de Py.
Ah, moi, je suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est un très bon festival. Et je trouve que c'est très bien que la réalité d'aujourd'hui pénètre dans les spectacles. Et puis, en fait, on complète toujours le in par le off. Et le off est absolument passionnant. Mais par exemple, il y a une femme policière qui fait un spectacle sur les femmes maltraitées, qui s'appelle Sonia Amia. Vous avez aussi un coureur cycliste qui s'appelle Guillaume Martin, qui a fini 21e du Tour de France l'an dernier, qui fait un spectacle sur Platon. Donc il se passe des choses absolument incroyables.
Ça, Gilles, c'est parce que vous êtes toujours intéressé par le Tour de France, c'est pour ça en fait.
Oui, mais je pense que je suis moins bon sur Platon que ce coureur cycliste.
En tout cas, vous êtes bon aussi sur les policières, c'est très bien. Donc on commence avec Architecture, un spectacle écrit et mis en scène par Pascal Rambert, qui s'est donné jusqu'à hier, samedi, dans la cour d'honneur avec Emmanuel Béard, dans le rôle inédit d'une psychanalyste, Audrey Bonnet, Anne Brochet, Marie-Sophie Ferdan, l'officier Arthur Nosiciel, le philosophe Stanislas Nordet, le compositeur Denis Podalydès. Alors il faut savoir que c'est en alternance avec Pascal Rénéric, le toujours excellent Laurent Poitrenaud, Bérénice Vanvinck, et dans le rôle du patriarche architecte Jacques Weber, qui fait à 70 ans, vous le savez, ses débuts au Festival d'Avignon, où il ne voulait pas venir. Ça l'a répété d'interview en interview, parce que ce festival lui faisait trop penser au Salon de l'Auto. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas le lien entre les deux, mais peut-être qu'il me l'expliquera un jour. La pièce, très longue, près de 4 heures, couvre dans l'Europe des nationalismes et du totalitarisme la période 1910-1938. Elle réunit dans un décor et des costumes blancs ou beiges les membres d'une famille viennoise, intellectuels, artistes, compositeurs, qui ne vont pas réussir à éviter le naufrage de leur monde, pas réussir non plus à endiguer l'ennui qui nous gagne. Pour notre consoeur Fabienne Darche du Monde, c'est une pièce boursouflée. Et pour vous, les critiques du Masque et la Plume, Gilles?
Oui, ça commence pas très bien. Ça, je reconnais de ce point de vue-là. Parce que Pascal Rambert, c'est un auteur très intéressant. Moi, j'aime beaucoup Pascal Rambert.
Ah non, mais on va pas faire la bio de Rambert, ça, on est
mais,
tous
oui,
d'accord.
Mais justement, je crois qu'il écrit trop. Et là, il en est à sa troisième pièce dans l'année. Donc, en plus, il écrit pour les acteurs. Donc, il dit, j'écris pour Emmanuel Béard, elle est comme ça, je vais écrire pour elle. Et il me semble que, justement, à force d'écrire pour les acteurs, il est à court d'idées. Il commence à faire des remplissages, comme ça. Et il n'est pas très bon sur les nombreux personnages. L'art de Rambert, c'est le face-à-face, le duel, le tandem, le choc entre deux personnes, comme dans La clôture de l'amour, où la personne qui est en face ne parle pas, mais c'est quand même tout dans l'affrontement. Et là, alors, une fois qu'il a réussi un ou deux affrontements dans l'architecture, il sait pas du tout faire les autres choses. Il est fait pour le frontal, et quand il doit aborder le diagonal, ben il se prend les pieds dans le tapis.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment les uns les autres que le sujet a déjà été mille fois traité, non?
Bah oui, par des grands écrivains.
Alors, Thomas Bernard.
Bah oui, on a Thomas Mann, on a Musil, on a des dizaines d'écrivains de l'époque du début du XXe siècle jusqu'au début du XXe siècle qui ont écrit avec Zweig, une force, Zweig, une intelligence, Zweig évidemment, avec beaucoup de force et beaucoup d'intelligence, et souvent d'ailleurs en plongeant au cœur de famille, en nous racontant ces familles. Là, on a quand même le sentiment de quelque chose de très faible. C'est pour ça qu'on s'ennuie autant, c'est extrêmement faible. Alors, à l'heure des charges...
Moi, je me suis réveillée quand j'ai vu apparaître le cheval.
Oui, mais enfin, le pauvre cheval,
oui,
il est traîné.
Oui, mais c'est un gadget qui ne sert à rien.
Il est traîné. Il était peut-être... Donne... Alors, il y a... Comment elle s'appelle?
Il était peut-être
elle lui donne
Marina
un sucre,
mais...
et puis après, on lui demande de se coucher. Ce pauvre cheval, ouais, qui est obligé de marcher sur les...
Non, mais ça m'a réveillée, c'est ça que je veux dire.
Ah ben oui, voilà... Mais tout le monde s'endort et vous, vous êtes resté jusqu'après l'entracte. Mais à l'entracte, il y a une hémorragie extraordinaire de la grande cour d'honneur. C'est triste. Alors, il n'était pas programmé au départ dans la cour d'honneur. Il devait aller à la Fabrica.
Et Cathy, aussi
Cathy Mitchell,
Fabrica,
bien sûr. Cathy Mitchell a...
Oui, mais il y a des responsabilités dans la cour d'honneur, quand
mais
même.
Quand même, la cour d'honneur, ça donne sa couleur au festival. Et moi, comme je viens de vous le dire, heureusement que j'ai vu cette Phèdre à un seul acteur et un écrivain de immense talent, parce qu'autrement, mais je serais en dessous de la dépression.
Vincent.
Ben oui, on ressort là aussi déçu, parce que Rambert est très bon, comme le disait justement Gilles dans le rapport psychologique, dans la tension, il s'est épuisé des relations. Il le fait d'ailleurs avec Weber et son fils dans la pièce Stanislas Nordet. Il y a très beaux moments entre eux. Nordet est formidable, je trouve, dans les reproches qu'il formule et qu'il adresse à son père, mais ce sont des micro-moments par rapport aux 4 heures que tu viens de citer. Il patine, Rambert, il y a toujours ce flot qui jaillit. Il sait qu'il écrit beaucoup, mais il n'a aucune envie de couper et de réduire. C'est sa façon d'écrire, il l'explique assez souvent. Mais on ne voit pas la pertinence du choix de ces années-là, les années 10, les années 20, les années 30. Il a le droit d'écrire sur un sujet souvent traité, mais il faut qu'il nous dise des choses.
Oui, pourquoi son regard, un regard différent.
Il n'y a pas de dramaturgie, on patine. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose, que des choses sont redites. C'est pour ça que les gens partent et s'ennuient.
Il vaut s'y faire dans les micros.
Oui, c'est une succession de monologues un peu bêtassons pour Bobo qui aurait envie de parler de la période 1910-1938. C'est mal foutu. Moi, ce qui me pose problème quand même, alors certes, Rambert, il est très bon quand c'est les rapports psychologiques, comme vient de le dire Vincent, les rapports amoureux, mais pour les rapports historiques, pour raconter la politique, pour raconter l'histoire, c'est assez nul et faible. Mais moi, ce que je ne comprends pas, alors certes, Olivier Py, en tant qu'artiste, revendique la liberté des artistes, il a raison, mais quand même, ce texte-là, à le lire, et j'ai essayé de le lire, il aurait dû être coupé
Fabien,
d'une heure.
Il n'était pas encore écrit quand il a décidé de le programmer.
Voilà. Oui, mais après, au plateau, en voyant des répétitions, on aurait pu quand même arranger ce spectacle. Imaginez, il se fait massacrer, imaginez pour les autres,
mais vous imaginez
les tournées.
Comme on aurait crié à l'atteinte à la liberté du créateur.
Oui, mais il y a la responsabilité du patron du festival aussi, qui est importante. Mais alors moi, je voudrais dire quand même que pour moi, la représentation a été sauvée par les acteurs. Parce que quand je vois un Stanislas Nordet, que je trouve éblouissant, quand lui parle, je comprends un peu ce que la pièce veut dire. Quand Marie-Sophie Ferdan ou Emmanuel Béard parlent, ils sont excellente. Alors, certes, si le texte est un flux sans litote, sans ellipse et où on s'embourbe, pour ces acteurs-là, quand même, il y a quelques moments réjouissants.
Jacques, vous êtes resté jusqu'au bout ?
Je suis resté jusqu'au bout, ce qui me donne le droit de dire à quel point ce spectacle est effectivement ennuyeux, vide d'idées surtout. Il y a beaucoup de mots, mais il y a 15 phrases pour là où un mot suffirait. C'est incroyable, cette surabondance de textes.
Oui, c'est pour ça
qu'on a l'impression qu'effectivement, il ne s'est pas éliminé. C'est-à-dire, tout ce qui tombe de sa plume trouve ça merveilleux. Il en est enchanté, alors il le garde. Et ça devient énormément boursouflé. On a envie de dire, comme le Mac Mahon, que de mots, quoi. C'est effrayant. Effrayant, c'est un ennui à crever. Si on veut dégoûter les gens du théâtre, il faut vraiment les envoyer voir ça.
C'est d'autant plus curieux qu'il y a
Je vais maintenant, avant de donner la parole, peut-être qu'il y a des réactions.
Ah oui.
Vous allez vous exprimer, mais je voudrais quand même dire à nos auditeurs que le cheval de la pièce va voyager, puisque vous pourrez la voir à Rennes, cette pièce architecture, en septembre-octobre. En novembre, architecture sera à Strasbourg, en décembre, au Bouffe du Nord à Paris. Scène qui me paraît bien petite d'ailleurs pour un tel spectacle, mais bon. À Annecy en janvier, à Clermont-Ferrand en janvier, etc., etc. Donc architecture va tourner. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce spectacle ici ? Oui, à Avignon. Le micro vient vers vous, madame. Bonsoir.
Bonsoir, je vais faire l'avocat du diable. Je suis d'accord avec vous pour les longueurs et le fait qu'il y a des redondances. Mais pour moi, ça a été un très grand moment, ce spectacle. J'ai beaucoup aimé jusqu'à l'entracte. Je reconnais que la deuxième partie...
Qui est un entracte tardif, voilà, il faut le dire pour nos auditeurs. Moi, non, mais je le suis sérieux. C'est au bout de 3 heures.
C'est le plus long quand même. Et je ne me suis pas ennuyée du tout, par contre, dans la première partie qui est la plus longue.
Ah, je vois que vous n'êtes pas la seule, puisqu'il y a des applaudissements ici. À Avignon.
Moi, j'ai été emportée par ce texte. Au contraire, je l'ai trouvé très beau. Pour ce qu'il dit, non seulement sur la question politique, certes, mais tout ce qu'il dit sur les rapports dysfonctionnels de cette famille. J'ai été bouleversée par les relations entre ces personnages. J'ai trouvé que les tirades dont vous dites, je crois qu'elles sont nulles, j'ai trouvé qu'elles étaient magnifiques, les tirades de certains personnages. J'ai trouvé que les acteurs, comme a dit madame, sont extraordinaires. On a quand même la chance d'avoir des acteurs éblouissants. Et une mise en scène cohérente par rapport au reste. Donc c'est déjà beaucoup par rapport à ce qu'on voit dans la Cour d'honneur souvent, les autres années. Pour moi, ça a été une très bonne surprise. Maintenant, ce que je n'ai pas aimé, c'est la deuxième partie après l'entracte.
Tout elle le est côté, plus courte, hein.
Quand ils ont pris les ordinateurs, tout le recul de second degré, là j'ai trouvé que c'était du pathos, ça ne m'a plus du tout intéressée. Mais toute la première partie qui est la plus longue, j'étais prise, j'ai pas eu une seconde d'ennui.
Merci.
J'espère que j'ai pas été la seule.
Non, mais si vous avez en tout cas
pas au spectacle,
un métier à choisir, vous seriez très bien en avocate. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur ce spectacle ? Non. Si, encore une réaction, encore deux réactions même. Le micro vient vers vous.
Moi, vous m'inquiétez, car je n'ai pas encore vu le spectacle et j'ai l'intention de le voir demain.
Donc vous allez en parler très bien.
Voilà. Mais ce qui me choque quand même, ce sont toutes vos réflexions négatives. Y a-t-il quelque chose de positif ?
Écoutez, madame...
Fabienne a dit des choses très positives.
Le masque et la plume existent depuis 60 ans, plus de 60 ans. Sa fonction est aussi d'exercer une critique négative. Si vous voulez écouter des robinets, des loges et d'eau tiède, il faut écouter d'autres radios et d'autres émissions. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, monsieur, le micro vient vers vous.
Moi, c'est la deuxième partie qui m'a plu. Je me suis demandé... Je me suis demandé ce que j'avais fait à la première partie. Et en plus, je ne vois pas du tout l'intérêt d'aller mettre une pièce comme ça, avec une mise en scène comme ça, dans la cour d'honneur. Quand on repense à ce qu'avait fait Thomas Joly avec Thieste et la mise en scène magnifique qu'il avait fait dans cette cour d'honneur avec une exploitation, alors effectivement, il semblerait que Rambert dit que... c'est pas son texte qui m'a gêné, hein. Mais il dit qu'on peut s'assoupir, qu'on peut se laisser porter. Moi, je me suis réveillé avec le cheval, je me suis dit, tiens, voilà enfin de la mise en scène. Parce que assister à une première partie où on réunit les tables pour montrer qu'on est ensemble, on les écarte pour montrer qu'on fait des monologues. Moi, cette brochette de monologues d'acteurs, effectivement, ils sont très bons, mais je ne suis pas venu chercher cela.
Merci, bon, monsieur, pour cette intervention. On parlait donc d'architecture de Pascal Rambert. L'Europe toujours, avec nous, l'Europe, banquet des peuples du romancier Laurent Godet, prix Goncourt 2004 pour Le Soleil d'Escorta, qui n'a pas toujours été, pardon madame, bien accueilli au Masque et la Plume quand il publiait des livres. C'est un spectacle mis en musique et en scène par Roland Auzet, dont la dernière a lieu ce soir à 22h dans la cour du lycée Saint-Joseph avec une douzaine de comédiens, le chœur de l'Opéra Grand Avignon, 40 chanteurs amateurs et aussi des grands témoins qui se sont succédés chaque soir, dont Suzanne Georges, Pascal Lamy et bien sûr Primus Inter Pares. François Hollande, à en croire le programme, ce spectacle polyphonique fait du public une assemblée de poètes citoyens dans une Europe plurielle où l'art fortifie le politique. Jacques.
Ben, c'est vraiment probablement le spectacle qui m'énerve le plus dans ce que j'ai vu à Avignon. C'est affreusement long, c'est une succession de slogans. C'est effectivement une capitulation du théâtre parce qu'il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de situation. On veut m'obliger à penser un certain nombre de choses. Et en plus, on interrompt le spectacle à un moment donné donc pour faire parler ce qu'ils appellent un grand témoin. C'est-à-dire, en l'occurrence, moi j'ai vu entendu une politicienne lors d'une fausse interview.
Ah, vous n'avez pas eu Hollande, vous ?
Non, je n'étais pas le soir de Hollande. C'était probablement plus drôle quand il y avait Hollande.
Pas tellement.
Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'était une fonctionnaire du gouvernement irlandais qui parlait. C'était parfaitement entendu bien, mais surtout, ce qui était grave, c'est que le théâtre a l'air de dire « je ne peux pas prendre en charge ». Et je demande à des hommes politiques de parler, mais les hommes politiques, ils s'expriment partout. On les entend tout le temps à la télévision. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller au théâtre à Avignon et de me retrouver avec des acteurs qui font des interviews? En plus, c'est faux. Ils ont appris les questions avant. On sent très bien que la réponse aussi a été écrite, etc. C'est, je trouve, lamentable. C'est une défaite du théâtre. Et alors, quant aux propos, mais...
Là, n'importe quel article, on n'apprend pas grand-chose sur l'Europe.
Rien du tout, n'importe quel
un exposé du Figaro
ou du Monde, en quelques lignes, on dit plus. Il y a une absence d'idées extraordinaires. C'est vraiment le développement de « c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on doit fermer sa gueule ».
C'est
terrible. Je partage l'avis de Jacques. J'aime pas que de manière si frontale on veuille m'apprendre des choses au théâtre et que ça soit si ouvertement pédagogique et en plus culpabilisant. C'est assez faible dans ce que ça raconte. Ça prend l'Europe à partir de 1830.
C'est pas non plus.
C'est assez culpabilisant sur ce qu'on ne fait pas, sur le problème des réfugiés. Il y a des tas de choses qui sont agaçantes. Et alors, surtout, cette arrivée de François Hollande. Moi, j'ai eu l'honneur, si on peut dire, d'avoir François Hollande. Et là, on se trouve comme des otages. Quel est le statut de la venue de François Hollande sur un plateau ?
Ou des autres ?
Ou des autres. Mais enfin, là, il a quand même été président de la République,
lui.
Il a été président de la République. Certaines personnes l'applaudissent. Est-ce que ça veut dire que le spectacle est de gauche ?
Vous auriez pu avoir Sarkozy aussi. Hein,
oui, mais tout le monde rit avec compassion des blagues de François Hollande, qui, c'est vrai, est très drôle. Moi, je me suis sentie gênée qu'il soit là. Je ne savais plus où j'en étais. Je ne savais pas ce qu'était ce spectacle. Et ça m'a exaspérée.
Armel.
Oh oui, c'est vraiment un des plus mauvais spectacles que j'ai vu dans Avignon depuis longtemps.
C'est un bon festival, hein.
Parce que c'est prendre le public, c'est quand même, on a à Avignon un des publics les plus ouverts et les plus intéressés aux choses du monde qui existent. On a des gens qui s'engagent, on a des gens qui prennent sur leurs vacances et qui viennent réfléchir au théâtre. Qu'est-ce qu'on a besoin de leur servir, ce que moi j'appelle un exposé d'un collégien sur l'Europe, avec une espèce de complaisance, et puis des choses fausses, par exemple. C'est très à charge. Moi je connais des gens, et ils ne sont pas uniques, qui font, par exemple, les examens pour donner le droit de rester en France à les cartes de séjour et le statut de réfugié. Et là, il y a une espèce de virago méchante qui revient à plusieurs fois et qui traite la personne qu'elle doit interroger comme un moins que rien. Et ça, c'est tordu, c'est luxé la vérité, c'est dégueulasse. En plus, c'est lourd, c'est moche, c'est prétentieux, bon, c'est insupportable.
Je pense qu'on a dit l'essentiel.
Et Vincent va vous dire absolument.
Vincent,
la musique, n'est pas si mal.
La musique est bien.
Ben Roland Auzet, c'est un compositeur. Le metteur en scène est un compositeur au départ. Mais il fait jouer ça par un batteur qui s'éclate sur sa batterie, alors que nous, on est totalement circonspects. Et une jolie fille qui chante bien, mais qui joue très mal de la guitare.
Mais 50 choristes sur le plateau.
C'est de l'amateurisme, en fait. C'est de l'amateurisme.
Et on reste indifférent, vous l'avez dit, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et on s'interroge, oui, sur ce texte qui est effectivement très didactique. Je trouve qu'on nous culpabilise tout le temps, et c'est désagréable, plusieurs heures d'être culpabilisé. Nous, on a eu Suzanne Georges, qui est la cofondatrice du mouvement Attaque, qui est montée sur scène, donc américaine qui vit en France, qui avait ça de note, elle avait bossé son sujet au moins pendant 2 mois, c'était impressionnant, et on lui a posé 3-4 questions, et elle-même à la fin a dit «
mais surtout,
je pensais dire d'autres
dire,
choses ». Donc ce discours-là tombe à l'eau, on ne comprend pas pourquoi il a lieu, mais je reconnais qu'à la fin, il y a des gens debout qui vont danser sur scène.
Tu oublies, Vincent, qu'elle a trouvé à nous dire, cette femme soi-disant exceptionnelle, elle n'a trouvé à nous dire qu'il y avait une sacrée différence entre l'Amérique et la France, parce que on était soignés gratuitement en France et pas du tout en Amérique. Voilà ce qu'elle retient de la nation française.
Surtout, c'était un scoop.
Ah ouais.
Gilles.
Ah ben c'est un spectacle magnifique, c'est un spectacle essentiel, c'est un spectacle qui redonne au théâtre sa force. Ah oui, moi j'ai adoré ce spectacle.
Mais non,
on ne sortait pas de lit.
Gilles,
c'est exactement, le contraire de Rambert, c'est-à-dire que Rambert s'est glacé.
Ça, oh non, c'est aussi bavard.
Ça, c'est le feu sur scène. Alors, on peut pas être d'accord, parce que, comme dit Armel très justement, c'est à charge. C'est vrai que c'est un pamphlet. C'est-à-dire que c'est très, très violent contre l'Europe. Et on peut penser
contre
autre chose de la communauté européenne.
Non, c'est pas contre l'Europe.
Mais si, c'est contre la communauté européenne. Enfin, Jacques, vous venez dire des choses qui étaient complètement aberrantes. Vous avez dit que les invités étaient pris au piège. C'est tout le contraire. Les invités, ils sont là pour, au contraire, apporter une autre point de vue par rapport à celui de la pièce. Et donc, on a une ouverture, une tolérance, l'invité. Et Hollande a été, très bien. Moi, j'ai pas trouvé qu'il faisait des blagues, Fabienne. Il était pas drôle du tout, mais il défendait.
Tout le monde riait.
Mais non, on riait pas.
Je me demande si Gilles s'est pas trompé. Ça,
en tout cas, le spectacle a cette, d'abord, ce qu'il défend avant tout, c'est la parole populaire. Il part du fait que le nom français en 2005 a été non respecté par les dirigeants de l'Europe. C'est vrai.
Oui, on le savait.
C'est pas vrai. Non, mais justement, c'est de là que ça part. Et ça part d'une chose authentique. Et donc, c'est ce grand souffle de besoin de parler, de besoin que les gens soient associés aux décisions politiques, qui est dans ce spectacle, qui est l'essentiel. Et il se trouve que la forme du spectacle a cette forme populaire, avec 50 personnes sur scène. Alors, c'est violent, c'est sans doute trop violent, peut-être surtout sur le niveau sonore, c'est très, très violent. La roqueuse est terrible. Mais justement, ça emballe, ça pose des questions. Ça dit des choses très intéressantes, que ce qui est dit sur justement, c'est la parole du peuple. Elle n'est pas du tout manichéenne de la part de Laurent Godet, parce qu'il dit on ne donne plus la parole au peuple, mais c'est vrai que le peuple en Allemagne, c'est lui qui a voté pour Hitler. Au départ, c'était populaire.
C'est une grande découverte.
Oui, mais non, mais il a raison. Il défend le peuple, mais il dit attention, la démocratie, ça peut ne pas marcher. Essayons de la faire remarcher au niveau européen. Donc moi, ça m'a beaucoup passionné. Et les acteurs sont extraordinaires. Enfin,
non.
Mais absolument.
Il n'y a pas de théâtre dans tout ça. Tu parles d'une idée, mais tu parles pas d'un spectacle.
C'est un spectacle.
Vous n'avez jamais appris le théâtre grec, c'est exactement ça.
Non, Gilles, arrête.
Nous, l'Europe, banquet des peuples de Laurent Godet. Ça va être, je le précise d'ores et déjà, en octobre à Amiens, en janvier prochain à Perpignan, et puis à Grenoble, à Blagnac, et même à Choisy-le-Roi. Je ne sais pas si François Hollande va suivre toute la tournée, mais en tout cas, il pourra signer des livres. Oui, des réactions, madame, le micro vient vers vous.
Eh bien, je suis tout à fait de votre avis sur de l'avis de Gilles. Pour moi, le public d'Avignon est un public, comme nous l'avons dit, exigeant. Nous sommes habitués à autre chose que ce genre de pièces que j'ai vues hier. J'étais absolument... Pour moi, c'est lamentable. Je suis sortie en voyant tous ces gens se précipiter sur la scène pour danser quand ce sujet de l'Europe a été effleuré d'une manière aussi superficielle. Enfin, c'est pas superficiel, mais... Il n'y a rien, c'est vide, c'est d'un parlotte. Non, franchement, non, cette Irlandaise, mais c'était effrayant. Pendant 20 minutes, elle nous a bassinés avec des discours mais inintéressants, mais on n'est pas des...
Merci pour votre intervention. Une autre réaction, encore deux réactions. Madame.
Ben, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce qui a été dit. J'ai beaucoup apprécié ce spectacle pour différentes raisons. La première, c'est que, et je l'entends encore aujourd'hui, c'est que même si le public d'Avignon est exigeant, ce spectacle ne va pas rester seulement sur Avignon, il va sortir. Quand on voit la façon dont on parle de l'Europe, dont est traitée l'Europe par nos politiques, par nos politiciens, politiciens comme on peut les appeler, on voit le travail pédagogique qui reste à faire pour savoir ce que c'est. J'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été mises sur la table. Après, ce sont des idées, des réflexions. On s'en empare, on repart avec des petites graines dans la tête. Ça pousse pas, mais au moins, on a matière à réfléchir. Et pour revenir sur ce que vous disiez, madame, à propos de l'intervention au sujet des demandeurs d'asile européennes pratiquantes, je le suis depuis très longtemps maintenant, avec beaucoup de travail et séjour à l'étranger. Et aussi, là, un travail auprès des demandeurs d'asile qui doivent préparer leur recours. Et je peux vous dire que ce qu'ils nous racontent quelquefois... Ça n'est pas du mépris, mais c'est en tout cas une très grande difficulté à faire entendre leurs paroles.
Mais alors pourquoi montrer une femme qui les humilie ?
Parce qu'il y a de ça, il y a de ça aussi, et je le
vois. Puis il y a les journaux pour savoir ce qu'est l'Europe.
Oh, il n'y a pas que les journaux.
Les journalistes.
Là, il y a la vie, et c'est ça qui manque beaucoup aux gens. Il y a un fossé entre l'Europe et le quotidien des gens.
Merci pour votre dernière intervention. Parce que je voudrais qu'on évoque d'autres pièces. Oui, monsieur, bonjour.
Je suis d'accord avec Gilles Costa sur le fait que ce spectacle n'est pas du théâtre, mais en même temps, il fallait un peu rebattre les cartes et montrer une nouvelle idée de l'Europe. Et on a entendu un chanteur portugais formidable.
Merci pour cette intervention. Je remarque que nous, l'Europe banquet des peuples, donc de Laurent Goudet, va tourner même à l'étranger, puisque ce sera également en Pologne. Mais étonnamment, il n'y a pas d'Angleterre dans cette tournée de l'Europe. Allez, vite, un peu plus vite, s'il vous plaît. Le présent qui déborde. Notre Odyssée 2, d'après l'Odyssée de Homère. C'est après Ithaque, Notre Odyssée 1, un spectacle de la Brésilienne Christiane Jataï, qu'on avait remarqué dans la mise en scène de la règle du jeu de Renoir aux Français. Et là, c'est présenté au gymnase du lycée Aubanel, en arabe, en kurde, en grec, en anglais, pour Nerson, en isizoulou, en français, en portugais, en kayapo. Tout ça, je vous rassure, surtitré en français et en anglais, avec une trentaine donc de comédiens de toute nationalité ayant un statut de réfugié, on y revient. Et même d'ailleurs des Indiens d'Amazonie. Le spectacle s'ouvre d'ailleurs par un documentaire où témoignent des personnes déplacées, réfugiées, au Liban, en Palestine, en Grèce et en Afrique du Sud. Je suis parti, dit Christiane Jataï, qui ne cache pas d'ailleurs son opposition à Bolsonaro. Je suis parti à la recherche d'Ulysse réel qui pouvait témoigner de leur vie d'exil en résonance avec les péripéties et émotions vécues par le Ulysse de Homère. Vincent.
Ah, ça m'a beaucoup ému, moi. Il m'a accueilli, ce spectacle, et je pense que j'étais pas tout seul ce jour-là dans la salle à réagir comme ça. Effectivement, l'écran est géant, le cinéma est présent à 97%.
Qui sera aussi d'ailleurs une idée qui va courir tout au long du festival avec beaucoup de présence de cinéma ou de vidéo sur des scènes de théâtre.
Et il n'y a pas que le cinéma, effectivement. Elle est allée avec son équipe interviewer des exilés, des acteurs, la plupart du temps, qui à la fois jouent l'Odyssée quand elle leur demande et vivent et témoignent de ce qu'ils ont vécu. Alors on se perd, de temps en temps, j'ai pas compris exactement ce qu'elle attendait d'eux, ce qu'ils se disaient, mais progressivement, d'autres acteurs et musiciens et chanteurs sont entrés auprès du public dans la salle, et ils ont pris le relais de ce qui était en train de se raconter. À un moment, il y a une fête le soir, les gens sont en train de festoyer, on sort la guitare, on chante, on danse, et ces comédiens déboulent, On ne sait pas exactement de quel endroit ils arrivent. Peu
ils sont assis à côté de nous.
Ils sont assis à côté de nous et ils se mettent à danser et ils font danser le public et ça marche. C'est un pari quasiment au début de la pièce. On se demande pourquoi elle fait ça. Et il se passe une sorte de communion, de joie. Tout le monde, la plupart des gens sont debout et se rassoient ensuite, puis continuent de suivre le projet et les paroles. Cette communion entre l'écran, la salle et le discours et l'émotion qu'apporte cette femme est formidable, je trouve. Et c'est quelque chose qui reste en vous.
Gilles.
Oui, bah c'est comme nous l'Europe
en quelque sorte. Justement, il y a une grosse différence.
C'est un tact très généreux.
Pas du tout.
Très généreux et
c'est moins didactique.
Et c'est le deuxième
aspect. C'est poétique, puis un vrai travail.
C'est le deuxième
aspect. C'est plus modeste aussi, ça ne profère pas.
Vous permettez, Vincent Jotz.
Allez-y, Gilles.
Oui, c'est le deuxième tact, effectivement, où on danse. C'est quand même assez étonnant, c'est ça que le public se met à danser. Non, il trouve que Christiane Jataï, nous étions beaucoup à être très réservés avec cette metteur en scène franco-brésilienne. On n'avait pas trop aimé, certains d'entre nous, ses premiers spectacles un peu compliqués dans la façon de compliquer les choses, justement. Et là, c'est vraiment que c'est à peine du théâtre, puisque le cinéma doit prendre 90% de la soirée. Mais c'est passionnant, généreux, avec une participation du public qui est très chaleureuse. Et donc, je vous invite, si vous n'y êtes pas allé, à apprendre comment on fait le bruit de la pluie selon les Brésiliens, les indigènes
brésiliens.
Je
donnerai des villes où passera le spectacle très bientôt, Armelle.
C'est un remarquable travail. Moi, je suis très heureuse de retrouver cette femme qui a 50 ans et qui m'avait éblouie avec sa Mademoiselle Julie. Puis ensuite, je trouvais qu'elle se perdait un petit peu.
À la règle du jeu, on était un peu plus critique.
La première partie, d'ailleurs, de ce spectacle n'était pas bon du tout à l'Odéon. Et là, avec une intelligence de manipulatrice un petit peu, elle lit le film et la salle, puisque les personnes qui ont été filmées au Liban, au Brésil et tout ça, nous regardent, en Afrique du Sud, nous regardent. Et donc, on a vraiment l'impression d'être en lien avec eux. Il y a des témoins dans la salle et des témoins qui ne sont pas n'importe qui. Il y a en particulier une jeune Syrienne qui a quitté son pays, qui est retournée, qui s'est retrouvée en prison. Et Jataï, c'est là la force du spectacle. Elle retourne au Brésil pour nous raconter une histoire extrêmement intime. Une histoire qui concerne son grand-père, qui la concerne elle. Et c'est ça, paradoxalement, qui légitime cette odyssée, qui légitime sa traversée d'Homère. Et c'est pour moi le spectacle le plus juste.
Pardon Armel, mais je suis obligée de vous donner la parole.
Oui, moi je suis d'accord avec Armel. Pour moi, là, Olivier Py, bravo d'avoir fait venir Christiane Jataï. C'est un spectacle. Alors, c'est pas vraiment du théâtre, c'est autre chose, parce qu'elle explore les frontières, Christiane Jataï. Elle explore le cinéma, c'est pas vraiment du cinéma, c'est pas vraiment du théâtre non plus.
C'est pas du cinéma et pas du théâtre.
C'est vrai. Oui, mais c'est l'interaction entre les deux qui est intéressante. Et, qu'elle joue du réel et de la fiction en permanence, elle demande à ses réfugiés dans des camps de s'identifier aux personnages d'Ulysse et Pénélope et ça donne des choses, des réflexions tout à fait bouleversantes. Et moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est ce travail sur le public dont parlait Vincent Jauze, parce que ce qu'il y a de formidable, c'est qu'elle arrive à inclure le public qui se lève, qui danse, comme on l'a dit, mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui. Tout ce qu'elle raconte est terrible, le problème des réfugiés est terrible, et elle arrive par le théâtre, par la force du collectif, par la force d'assister à la représentation ensemble, en faire quelque chose de joyeux. Ouais. Et ça, c'est bouleversant. Elle arrive à nous donner de la joie sur un problème qui est terrible. Elle arrive à nous ouvrir des horizons.
Jacques.
D'accord, dansons sur le malheur des réfugiés. Alors, écoutez,
mais non, Jacques,
je vais au théâtre, c'est pour voir le théâtre.
Vous dites
ça n'est
là,
pas pour rester devant l'écran 90% du temps, comme vous l'avez dit. C'est du mauvais cinéma, parce qu'elle se sert mal, à mon avis, de la caméra. Et c'est du mauvais théâtre.
Et
on l'avait vu quand elle a monté la règle du jeu à la Comédie Française.
Il y avait d'ailleurs un grand usage du cinéma, également.
Et effectivement, c'était du mauvais cinéma et du mauvais théâtre, et ça recommence.
Mais ça
et d'autre
quoi,
part, ce soir, Fabienne, ce soir, c'est le 14 juillet, il y a des balles, allez-y si vous voulez danser, mais à mon avis, le théâtre, c'est pas seulement de faire venir les spectateurs sur scène pour danser. Ça, c'est de la démagogie.
Mais non.
Le spectacle qui déborde notre odyssée de Christiane Jataï va se donner à Bruxelles en octobre prochain, et puis au 104 en novembre, au 104 à Paris. Et puis après, à Strasbourg, ce sera en décembre. Et je ne donne pas la suite de la tournée, la longue tournée qui passera par Reims, Saint-Étienne, Genève et même la Chaux-de-Fonds. Oui, une réaction peut-être sur ce spectacle. Madame, bonjour ou bonsoir.
Ce n'est pas tout à fait sur le spectacle, c'est une petite réaction par rapport à Jacques. Juste sur le fait que ça vous fait du mal, que ce soit plus du théâtre, comme on dit, le théâtre. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on est déjà dans une société qui cloisonne tout? Est-ce qu'on ne peut pas décloisonner un peu tout ça et se dire que c'est pas bien grave s'il y a un écran sur une scène de théâtre?
Mais moi,
et qu'il faut juste se laisser surprendre aussi un petit peu et s'ouvrir.
Je vais au théâtre.
Merci.
Je vais au théâtre
pour la cette présence, apostrophe.
Pour la présence réelle de l'acteur et pas pour voir des images. J'en vois suffisamment à la télévision, j'en vois partout des images.
Je vois que ici, pour ceux qui nous prendraient en cours de route, puisque nous sommes au Festival d'Avignon, au site Louis Pasteur de l'Université d'Avignon, pour un masque et la plume, et on évoque maintenant un peu plus rapidement l'amour vainqueur, un spectacle bref, 1h10. On dirait au cinéma presque un court-métrage, d'Olivier Py pour tout public à partir de 9 ans, même mi. Moi, je l'ai vu, il n'y avait que des adultes, hein, je n'avais pas d'enfants autour de moi, qui s'est donc donné au gymnase du lycée Mistral avec Clémentine Bourgoin, Pierre Lebon, Flanane Obé, Anthony Sikopoulos. Ils sont quatre et je dois avouer qu'ils savent absolument tout faire. Ils savent jouer, ils savent chanter, changer de rôle à vue, faire du piano, du violon. Ils m'ont assez impressionné. Bref, un conte inspiré des frères Grimm, où une jeune fille amoureuse d'un prince qui a refusé d'obéir à son père est enfermée dans une tour. Olivier Py veut, dit-il, répondre au désespoir par la fantaisie et à la guerre par le chant. Le chant, puisqu'effectivement, j'ai le sentiment que c'était un cabaret, là encore, qui était très applaudi à la fin par le public et qui a même rythmé l'ultime chanson. Jacques.
J'ai passé un très bon moment. Là, c'est un des bons moments du festival.
Hosanna, Hosanna.
Mais c'est voilà, pas du vrai théâtre, ça, dites-moi.
C'est du vrai théâtre.
Il y a des photos, mais il n'y a pas de vidéo, ça c'est vrai.
Il y a effectivement quatre acteurs extraordinaires. Vous avez cité Anthony Sikopoulos, je le trouve merveilleux, et comme instrumentiste, et comme chanteur, et comme acteur. J'ai passé un très joli moment, et je pensais à Voltaire, dont finalement ce qui reste aujourd'hui, ce sont les contes, c'est-à-dire des œuvres qu'il considérait comme très mineures. Et je me demandais si, au fond, c'était pas un peu le cas pour Olivier Py, et si ça n'est pas dans ses spectacles pour enfants, où il abandonne toute prétention, qu'il donne le meilleur de lui-même. Vraiment, j'ai passé un très joli moment.
Fabienne.
Ah, moi aussi, j'ai trouvé ça très, très délicieux, joyeux, et une manière élégante et fraîche d'aborder les drames de la vie, la guerre, la politique, la différence, la laideur, la lâcheté, le tout, avec un sens du spectacle et de l'opérette qui est magnifique. Il a monté récemment une Mademoiselle Nitouche, là, qu'on a vue au Théâtre Marigny. Il est extraordinaire quand il s'amuse, quand il joue les travelots.
Parce qu'on frôle dans ce Grimm-là, vu par Py, quand même, beaucoup les questions de genre. Hein.
Bah bien sûr, toujours, en permanence. Donc, il dit des choses très graves et dangereuses, mais avec humour.
Peut-être un peu beaucoup pour une pièce pour enfants, d'ailleurs.
Alors, trop de genre pour un garçon.
Mais c'est
d'accord.
Bien d'initier les enfants à ces problèmes très jeunes.
Oui. Armel.
Oui, ben, tout est dit. On a à la tête du Festival d'Avignon un grand artiste. Alors, il s'égare parfois dans la programmation, mais quand il est aux manettes et quand il imagine, à partir des Grimm ou quelquefois à partir de textes qu'il écrit lui-même, des spectacles, il est quand même, il force l'admiration et ses quatre comédiens sont exceptionnels.
Vincent.
Ben, le Py est à son meilleur, c'est une forme qu'il maîtrise remarquablement. Quand il y a de la musique, il est heureux, c'est un metteur en scène d'opéra aussi.
Encore une fois, c'est du cabaret.
Ouais, c'est un opéra de poche.
Un opéra de poche.
Moi, je l'ai vécu comme ça. Il a écrit les paroles et la musique. Ça, je n'avais jamais vu, je crois, un spectacle où Py faisait tout. Et puis, c'est un metteur en scène exceptionnel, Olivier Py. Donc, il a trouvé des interprètes hors pair. On peut citer aussi Pierre Lebon, qui est à la fois danseur, chanteur, comédien, ils savent tout faire.
Les quatre savent tout faire.
Excellente distribution, et puis une noirceur qu'on retrouve souvent qui traverse les spectacles de Py, mais l'amour est vainqueur, d'où le titre, l'art aussi, la poésie, la musique, donc il fait confiance à l'art et à l'amour, et on ressort évidemment extrêmement heureux, avec l'envie de revenir peut-être même plusieurs fois revoir l'amour vainqueur.
D'autant que c'est court, Gilles.
Oui, je suis cette fois d'accord avec tout le monde. C'est absolument parfait. C'est-à-dire qu'on retrouve l'Olivier Py très jeune que certains d'entre nous ont connu quand il avait 18 ans, quoi, qui faisait des spectacles blagueurs, et puis le maître de l'opéra et du lyrique qu'il est. Et avoir fait ça avec juste quatre acteurs qui se métamorphosent.
Et avec très peu d'éléments, en fait, de scène. Hein.
Et puis alors, moi, j'ai jamais vu un gendarme au piano. Alors, c'est pas un gendarme, c'est un ministre.
C'est un général. C'est un général,
mais alors,
exactement.
Un méchant général au piano, je trouve ça merveilleux.
Eh bien, c'est l'amour vainqueur, seul moment, pour l'instant, d'unanimité au masque et la plume, d'Olivier Py, ça tombe bien. D'ailleurs, je lui promets quand même un joli succès en tournée. Et cette tournée passera en novembre par Bayonne et par Pau. Ensuite, en mars prochain, ce sera au 104 à Paris, et puis à Nice, et puis à Angoulême, et puis même, Vincent, à l'Opéra de Limoges en avril prochain. Des réactions peut-être sur ce spectacle? Oui, une réaction tout en haut, ici à Avignon. Monsieur, le micro est à vous.
Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que Olivier Py, pour certains, n'est peut-être pas un bon directeur de festival, mais par contre, il nous a prouvé quand même depuis des années qu'il était un metteur en scène fabuleux. Et c'est vrai que moi, je suis épaté de voir de tous les styles. À chaque fois, je me suis régalé. Et là, c'est pas réservé qu'aux enfants. Hein. Moi, je suis des années 50, je me suis régalé.
Merci pour cette intervention. Allez, encore plus rapidement, Péléas et Mélisande, ce n'est pas l'opéra de Debussy, mais la pièce du très symboliste Maurice Maeterlinck qui fut créée, ça au moins Jacques Nerson s'en souvient, puisqu'il y était le 17 mai 1893 au Bouffe parisien, dans la forêt où il chasse Golo, rencontre Mélisande, qui menace de donner la mort s'il tente de lui prendre sa couronne. Après, eh bien, il l'emmène dans son château. Je ne vous raconte pas la suite, vous la connaissez. La version de Julie Duclos s'est donnée à la Fabrica jusqu'au 10 juillet et elle emprunte pour le bonheur de Jacques Nerson à la fois au théâtre et au cinéma avec Vincent Disset, Philippe Duclos, Stéphanie Marc, Alix Rimer, Mathieu Sempeur, Émilien Tessier. Jacques, alors?
Mais j'ai passé un bon moment.
Ah
oui, encore un. Grâce, pas tellement à la mise en scène que je trouve pas géniale, que je trouve correcte, pas géniale, non. Elle est bien, mais elle n'est pas géniale. Les acteurs sont inégaux. Je pas été absolument séduit par Mélisande, elle ne m'a pas fait rêver, mais le texte de Maeterlinck est d'une force incroyable et cette simplicité est très mystérieuse parce que on ne voit pas venir la poésie, elle n'est pas du tout annoncée comme par exemple dans la langue de Claudel où il y a une espèce de volonté de faire du néo-gothique. Et là, bien qu'on soit dans une œuvre qui se situe un peu dans le même climat symboliste, c'est la simplicité absolue, c'est très touchant, très beau.
Fabienne, un mot?
Alors moi, je trouve ça formidable. Je trouve qu'à petite touche, elle instille Julie Duclos par une mise en scène pudique où les éléments s'avancent dans des costumes contemporains. Les décors bougent. Elle instille l'invisible. Et tout en parlant aussi de l'aujourd'hui. Parce que quand Mélisande, la première scène où on voit Mélisande, qui est donc une princesse qui pleure autour d'une mare, elle a un foulard de gitane, de tzigane. Donc ça s'est évoqué aussi les réfugiés d'aujourd'hui. Bref, elle parle du politique, elle parle de l'invisible de Maeterlinck. Je trouve ça d'une grâce infinie.
Gilles?
Oui, moi j'aurais préféré que ce soit pas si contemporain, parce que Maeterlinck, ça doit être intemporel et médiéval. Enfin, mais cela dit, ce spectacle est très très joli, c'est délicat à tous les niveaux. Et c'est assez étonnant parce qu'il y a une grosse machinerie, il y a des sons, il y a des images, il y a un décor qui bouge. Et elle arrive, avec une tonalisation importante, elle arrive à faire entendre comme si on était à voix nue dans un spectacle qui est en fait très technique.
Vincent,
oui,
et
c'est
Armel.
Magnifique.
Oui.
Il y a, mes camarades l'ont dit, une sorte d'épure tout au long du spectacle qui ressemble un peu d'ailleurs à une mise en scène d'opéra. Ils ont une façon comme ça de courir sur le gravier à l'avant-scène, de s'élancer un peu, parfois comme Chéreau pouvait faire bouger ses comédiens et ses chanteurs sur scène. Et puis, elle réussit à nous faire croire qu'on est en train d'assister à quelque chose d'hyper contemporain. Ce sont des jeunes d'aujourd'hui qui sont perdus dans un vieux monde qui les rejette.
Et Armel?
C'est vrai. Ce sont des acteurs qui ont été très bien dirigés et qui savent se servir des micros, parce qu'il y a trop d'acteurs cette année qui vocifèrent dans les micros. C'est très délicat. Moi, j'ai regretté tout de même que la scène de la tour et de la chevelure soit complètement escamotée et écrasée dans un lit, ce qui fait que les jeunes qui étaient autour de moi n'ont pas compris la pièce.
Ce Péléas et Mélisande sera l'automne à Reims, et puis à Rouen, et puis à Tourcoing, et puis à Besançon. Est-ce qu'il faut s'arrêter, puisque le spectacle est itinérant? Là, ce sera en une phrase, pour voir Amitié, donc l'histoire tout à fait méconnue de l'amitié, et la complicité, l'admiration qui unissait le cinéaste et écrivain Pasolini au dramaturge napolitain Eduardo De Filippo, et c'est monté par Irène Bono, qui a retrouvé ce synopsis d'un film morné de Pasolini, porno, théo, colossal, film pornographique, théologique, à grand spectacle, où le héros croise d'ailleurs les personnages des pièces de Philippot. Et ce spectacle donc tourne à travers Avignon et la région proche. Gilles?
Oui, il y a le scénario de Pasolini, mais il y a aussi les pièces de Philippot, qui sont des pièces courtes, qui sont donc qui le Irène Bonneau fait entre l'art de les pièces par le récit de Pasolini, ce qui ne rend pas toujours les choses claires, mais qui donne un tact d'une intelligence absolument exceptionnelle et qui sont servis par des acteurs absolument grandioses.
Je cite rapidement François Château, Jacques Mazeran, Martine Chambachère.
Mais c'est des géants du théâtre, c'est magnifique.
Vincent, vraiment, je vous demande un avis. Hein, parce que
on sent que les comédiens sont heureux de jouer ça. Il y a une sorte de joie sur scène, mais qui n'est pas très contagieuse. C'est une suite de fragments qu'on ne comprend pas forcément, qui nous laisse pas mal indifférents. Et je trouve que c'est du vieux théâtre. Moi, je me suis très vite ennuyé.
Armelle?
Moi, je suis très heureuse qu'on retrouve Irène Bonneau, qui est une metteuse en scène passionnante. Et là, vous avez cité les comédiens. C'est Martine Chambachère, très en avant dans les histoires de Philippot, qui est absolument exceptionnelle.
Fabienne.
Oui, Vincent, c'est peut-être du vrai théâtre, mais c'est aussi tout le charme des choses un peu bricolées, magiques, le plaisir des comédiens. Et moi, je trouve que voir François Château, Martine Chambachère et Jacques Mazeran dans des numéros un peu de clown farcesque, c'est toute la magie du comédien qui est proche d'Eduardo de Philippot, justement, et du théâtre napolitain. Jacques. Je les ai trouvés magnifiques.
Bah, je préfère le vrai théâtre de Philippot quand il est joué. Je me souviens quand on avait vu Jacques Monclerc monter Noël chez les Coupiélos, dont on reprend certains extraits ici. Je trouve que cette espèce de mosaïque n'est pas passionnante. Mais les acteurs, vous l'avez dit, sont géniaux, et notamment Martine Chambachère, que je ne connaissais pas, je crois, et qui est un clown de génie.
L'amitié Pasolini et Philippot par Irène Bonneau se donnera à partir de l'automne à Besançon. Ce sera suivi de Chalon-sur-Saône, mais également du Centre Dramatique National de Tours en l'année prochaine. Allez, je le disais en début d'émission, Avignon, c'est également le off. Et quand j'ai dit le off, il faut savoir que c'est près de 1600 spectacles où se pressent quelques 6000 comédiens. Vous allez nous aider rapidement, et on y reviendra aussi la semaine prochaine, à nous y retrouver. Je commence peut-être à moins qu'il y ait des idées dans le public. Si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire rapidement. Oui, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Monsieur. Oui,
bonjour. Alors, je recommande le spectacle du collectif Dixit au théâtre Les Barriques à 12h15 tous les jours. C'est un collectif de 10 personnes. Le spectacle s'appelle La moitié du ciel. C'est une pièce dystopique sur la naissance, la natalité et la politique de l'enfant unique. Le texte vient d'être publié aux âmes libres, les éditions, et c'est excellent, et il faut vraiment les encourager, c'est vraiment excellent.
Un autre coup de cœur dans le public d'Avignon, le micro vient vers vous, devant.
Moi, je tiens à vous faire partager un spectacle, Léo et lui, d'après les textes de Léo Ferré. Moi, je ne connais pas bien cet univers-là, et j'étais touchée vraiment par cette histoire de transmission entre un père et son fils. Voilà, c'est très beau, c'est du sublime.
Et c'est tout.
Au théâtre des Corsins.
On va prendre un conseil de ce côté-ci, oui, de la cour.
Alors, je voudrais, madame, recommander Le Lambeau, Charlie en pièce.
Le Lambeau,
c'est
de Philippe Lançon.
C'est d'après le livre de Philippe Lançon. Ah. Et je vous le recommande absolument. J'espère qu'il va passer à Paris. C'est émouvant. Le livre, je pense que beaucoup de personnes l'ont lu. C'est un livre
C'est un mot que je n'utilise jamais pour un livre, mais
exactement,
c'est un chef-d'œuvre.
Et donc là, vraiment, c'est poétique, c'est émouvant, et j'espère que ça va passer à Paris, et je vous le recommande absolument.
Merci. Voilà. On continue ce tour de cours.
Moi, je tenais à vous parler de plusieurs spectacles au Théâtre du Trableu. Non, mais surtout un, c'est Éco-Ruraux. C'est à 10h les jours pairs. Et c'est,
Éco-Ruraux.
Éco-Ruraux, c'est ça. Ça a été écrit sur les communes rurales et la désertion des services publics là-bas. Et c'est un discours très très juste, avec d'excellents comédiens, et autant une scénographie, une lumière et un son magnifique.
Très bien, merci. Encore une ou deux interventions, oui.
Je voudrais attirer l'attention sur la programmation du Théâtre des Dons, qui est la vitrine du théâtre et du spectacle francophone belge en Avignon chaque été, et qui prend vraiment des risques et qui a beaucoup de courage. Je vous souhaite aussi d'y passer quelques moments. C'est très agréable. Et Manuel Pratt aussi à l'atelier 44 qui présente Moi Landru en alternance avec Le Couloir de la Mort tous les soirs à 19h10. Merci.
Comme on aime beaucoup les Belges à France Inter, on ira encore deux interventions et après les avis des critiques. Et on y reviendra, je vous rassure, dimanche prochain. Oui, encore une intervention en haut des gradins.
Alors moi, j'ai beaucoup aimé les Échoués.
C'est un spectacle que j'avais déjà vu au théâtre de la Ruchette qui passe là au Petit Louvre. C'est clairement, ça raconte la question de trois migrants vivant en France dans la clandestinité. C'est une adaptation d'un livre de Pascal Manoukian qui était un grand reporter de guerre. Et le comédien, donc, Mercadal, est excellent. Seul en scène, il joue à lui tout seul, enfin, 20 personnages. Il passe de l'un à l'autre avec beaucoup de précision, beaucoup de finesse. C'est bluffant. C'est un spectacle excessivement touchant et je dirais plein d'humanité. Voilà, je vous le conseille vivement.
Allez, une dernière intervention dans le public parce qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent et qu'on ne peut pas les prendre tous. Une dernière.
Oui, deux spectacles. Art aux Passions au Roirnais à 12h30 avec William Mesguich. Pour avoir vu il y a quelques années une adaptation de ce texte épouvantable, je peux dire que celle-ci est extraordinaire. Et ensuite, Les Couteaux dans le dos au Petit Louvre à 16h25, cinq comédiennes d'après un texte d'après Peer Gynt qui sont vraiment aussi étonnantes.
Merci. La voix pour finir aux critiques. Fabienne, un conseil du off.
Alors un conseil du off, deux vite fait. Antigone au théâtre Gilgamesh Belleville à 16h10, c'est une troupe québécoise qui raconte la violence entre les femmes depuis Antigone, les révoltes que portent les femmes, les relations difficiles entre les mères et les filles. C'est assez époustouflant dans la manière dont c'est joué. Et ensuite, une adaptation théâtrale du film de Ken Loach, Moi, Daniel Blake, qui se joue au Théâtre des Halles à 16h30 et mis en scène par Joël Dragutin, qui est très épuré et les drames de l'Angleterre d'aujourd'hui n'en ressortent que plus violemment.
Armel.
Moi aussi deux. Un pour les enfants, mais aussi pour nous. À 10h05, au Chapeau d'Ébène, ça s'appelle Mickey et Addy. C'est traduit de l'anglais par Séverine Magua. C'est joué par deux acteurs merveilleux, Alexis Gillot et Jennifer Maria. Mis en scène par Julien Lopato et c'est ravissant. Ensuite, un écrivain qu'on aime beaucoup à Avignon, qui s'appelle François Cervantes, qui écrit, qui met en scène et qui dirige là une comédienne qu'on adore aussi, Catherine Germain. Et c'est l'évocation de l'histoire d'un snack dans les quartiers nord de Marseille qui va être démoli et comment les gens se débrouillent pour qu'il ne soit pas démoli sans violence. C'est merveilleux.
Je le redirai d'ailleurs dimanche prochain, mais il faut savoir que tous ces spectacles du off que nous conseillons ici au Masque et la Plume sont en général repris à partir de l'automne dans différentes villes. Jacques.
Alors, l'effort d'être spectateur de et avec Pierre Note.
C'est pour vous.
Artéphile, oui, c'est à 13h25. Ça apprend à distinguer le spectateur du cochon. Ça, c'est assez important. Et puis, on reste dans le cochon. Je voulais juste proposer Jambon laissé. C'est-à-dire, c'est une traduction de Hamlet, c'est Jambon laissé, traduit par Google Translate. C'est extrêmement drôle. C'est au Théâtre de l'Optimiste à 20h25. Je vous le recommande.
Ça ne dure pas 4 heures, quand même.
Bon, Vincent.
After the End, au Théâtre de la Manufacture, c'est le Britannique qui devient de plus en plus traduit et à la mode en France. Denis Kelly, qui avait écrit entre autres Boys and Girls avec Constance Dolé, qui a eu un Molière. Là, c'est Antonin Chalon qui signe seulement sa deuxième mise en scène avec vraiment beaucoup de talent. Deux personnages, deux jeunes comédiens, enfermés dans un abri atomique. Est-ce que ce sont les derniers à vivre dans notre humanité ou est-ce que ce gars est un malade mental, un psychotique? Vous le saurez en allant voir After the End à la Manufacture.
Et enfin, parce que le temps presse, Gilles.
Journée de la Jupe, avec Gabriel Billaudano qui succède sur la scène à Isabelle Adjani, et c'est très beau. Genoma B, qui est un spectacle espagnol, qui est, d'après Lorca, est un spectacle sans parole. C'est Lorca
tous
sans parole.
Tous ces conseils, je suis désolé, mais l'émission a un temps. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume. Franceinter.fr. Merci Gilles Costaz, Armel Elio, Fabienne Pascaud, Jacques Nerson et Vincent Josse pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Ce soir sur le site Louis Pasteur de l'Université d'Avignon, il y avait à la technique, et je les remercie, Christophe Goudin, Olivia Branger, Nicolas Depagraf, Alain Pied. La réalisation et la mise en scène étaient signées Xavier Pestugien. Notez bien que la semaine prochaine, on parlera de théâtre à nouveau du Festival d'Avignon. Et je vous laisse, après le flash, dans les douces mains d'Anna Sigalevitch pour le concert de Paris avec l'Orchestre National de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France en direct depuis la Tour Eiffel avec au programme Berlioz, Bizet, Brahms, Vivaldi, Offenbach et les autres à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.